ce soir, on va vous parler interdiction d'élevage pour la fourrure aux Pays-Bas. Ensuite, on va vous parler de quelques tweets de François Fillon. Ensuite, on ira faire un tour du côté de Hong Kong avec une nouvelle loi chinoise sur la sécurité nationale. Ensuite, un nouveau projet d'aéroport pour Vinci. Ça faisait peut-être assez longtemps qu'ils n'en avaient pas. Et ensuite, on va parler... Attends, je t'avais pas mis ton micro. En plus, je sais même pas lequel t'as.
Ouais, j'ai le vert, mais je sais plus si c'est un rouge ou un orange juste avant. Ah, oh, là, ça marche mieux.
Bah oui. Vas-y. Et donc, moi, j'en étais à seule la lutte paye. Et ensuite?
Eh ben, seule la lutte paye. Donc, des flics vont être, figurez-vous, incroyablement révoqués juste parce qu'ils sont racistes. Bon, très très racistes.
Ensuite, on aura la rubrique Il faut que ça sache, où on aura des news des frontières, un rapport d'Amnesty International sur les violences policières, spécifiquement sur les migrants. Et ensuite, on finira par...
Eh ben, figurez-vous qu'il se passe des choses un peu importantes du côté d'Israël et de la Palestine, et que on se sent pas hyper, hyper balèze, alors on va essayer de trouver quelqu'un qui comprend un peu mieux que nous et qui pourra nous expliquer tout ça.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Donc, alors, on va commencer par quelques brèves.
Donc, on va parler un peu d'abord du droit des animaux, avec une bonne nouvelle post-Covid, puisque l'épidémie a accéléré la fermeture des fermes d'élevage de visons de fourrure aux Pays-Bas. Ça concernait 17 fermes d'élevage qui avaient vu certains de leurs animaux se faire contaminer par le virus. Devenus foyers de contamination, ils auraient eu ensuite eux-mêmes été à l'origine de plusieurs cas de coronavirus chez les employés des fermes. La première mesure en urgence, ça a été de tuer plus de 500 000 visons sur les 800 000 recensés aux Pays-Bas pour freiner la propagation du virus, évidemment, qui a pris d'énormes proportions. C'est pas très étonnant quand on sait que les visons sont élevés entassés à plusieurs dans de petites cages grillagées. Voilà. Les Pays-Bas, c'est le quatrième producteur mondial de fourrure de visons. Ils avaient déjà acté en 2013 la décision d'arrêter totalement cet élevage pour l'horizon 2024. Un étalement de plus de 10 ans, donc autant dire que c'était pas une priorité. La catastrophe sanitaire qui a bien empiré les conditions de vie des visons et de travail des salariés des fermes a contraint le Parlement, qui a peut-être été un peu encouragé par les manifestations et les appels de l'association PETA, l'a contraint donc ce Parlement à voter mardi dernier pour l'interruption imminente de l'élevage de visons et pour l'indemnisation des éleveurs. À savoir que l'indemnisation n'était pas prévue lors de la première planification d'arrêt des élevages. On imagine donc les réticences des fermes en question. Il n'y a pas encore pour l'instant de calendrier précis, mais PETA, l'association donc de défense des droits des animaux, espère que ça sera pour la fin de l'année. Par contre, rien de tel évidemment dans les trois autres pays les plus producteurs de fourrure de vison, la Chine, la Pologne et le Danemark. Alors si au Danemark justement, qui compte 19 000 millions de visons et 1500 fermes d'élevage, une ampleur beaucoup plus gigantesque qu'aux Pays-Bas. Donc, il y a eu deux fermes concernées par des cas de coronavirus, d'où la décision d'abattre 11 000 visons, mais certainement pas celle de mettre fin à ce marché. En France, même si ne sont concernées qu'une quinzaine de fermes, le chiffre est incertain, il est pour l'instant pas du tout question d'interdire l'élevage d'animaux à fourrure. Bref, combien il faudra de pandémies mondiales pour arrêter ça partout dans le monde ?
Canu Info. Du mercredi.
Alors, avant de lire la fin qui fait rigoler, je fais juste un petit rappel de l'actualité judiciaire d'il y a deux jours pour bien apprécier tout le sel d'un micro-article qu'on trouve sur le site Nantes Révolté. Donc, on se souvient que ça date de lundi. François Fillon, son épouse Pénélope Fillon et son ancien assistant parlementaire Marc Joulot ont été reconnus coupables lundi de détournement de fonds publics, complicité et recel. L'ancien Premier ministre François Fillon a été condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme. C'est quand même, ils ont été bien condamnés. Je veux dire, pour des hommes politiques, c'est un petit peu incroyable. Ils ont aussi été condamnés à 375 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité. Enfin, il a, lui, personnellement, et une peine d'inéligibilité de 10 ans.
Ils sont même allés au-delà des réquisitions du procureur.
Ouais, c'est ça. Et donc, dont 2 ans ferme. C'est bien de ça qu'on parle. Sa peine à lui, François, n'est pas aménageable.
Même par une petite danse.
Même, on dirait que non, puis je ne sais pas, si peut-être il serait prêt à faire beaucoup pour ne pas aller en prison. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a quand même pas de mandat de dépôt. Bon, ça reste un homme politique, hein, on ne va pas direct le mettre derrière les barreaux. Et du coup, ce que l'article sur lequel j'ai pioché ça, celui que l'article appelle se retraiter de la politique et reconverti dans la finance quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, pour la politique, il a montré qu'il n'était pas si doué que ça, mais pour la finance, il a montré qu'il savait y faire. Et bien, il restera libre jusqu'à son procès en appel. Et bon, on verra après ce que ça donnera. Son épouse, Pénélope Fillon, qui avait notamment signé 3 contrats d'assistante parlementaire avec son mari député et plus tard le suppléant de Fillon dans la Sarthe, donc Marc Joulot. Tout ça entre 1998 et 2013. Donc Pénélope Fillon est condamnée à 3 ans de prison, elle, que du sursis. 375 000 euros d'amende comme lui et 2 ans d'inéligibilité. Pour le tribunal, ces contrats n'avaient aucune consistance et ne répondaient à aucun besoin. Les fonds publics issus de l'Assemblée nationale et du Sénat qui ont été détournés au titre des constats de Madame des contrats, pardon, ah oui, ça, le mot était bizarre, au titre des contrats de Madame Fillon et des enfants du couple aussi s'élèvent, selon le tribunal, à près de 1 156 000 euros. Bon, pour ça, ils sont quand même juste condamnés chacun à 375 000 euros d'amende. Autant dire qu'il y en a un paquet qui reste dans leur poche. Enfin, malgré tout, il y a un petit peu de prison ferme pour monsieur. Et c'est donc maintenant que le site, c'est donc à ce moment-là que le site d'information Nantes Révoltée, un site que j'aime hyper bien par ailleurs en ce moment, je trouve qu'ils font plein de choses vraiment bien, ce site choisit de déterrer quelques tweets de ce même François Fillon, alors qu'ils datent, qu'ils sont pas tout neufs, hein, disons qu'il les a pas sortis entre avant-hier et aujourd'hui. Mais tweets dans lesquels, alors par exemple, si on remonte en juin 2012, François tweet ceci, ouvrez les guillemets, augmentation du SMIC, c'est trop facile d'être généreux avec l'argent des autres au détriment de l'emploi des autres. En septembre 2012, il tweet, il y a injustice sociale entre ceux qui travaillent dur pour peu et ceux qui ne travaillent pas et reçoivent de l'argent public. Ding ding. Ça, c'était sur le pognon. Hein. Comment est-ce que les parasites sociaux, c'est-à-dire à l'époque, selon lui, les pauvres, sans mettre plein les fouilles, mais quand même jamais aucun pauvre n'a réussi, même si on prend toute la famille, n'a réussi à se mettre 1 156 000 euros dans les fouilles juste en prenant l'argent des contribuables. La famille Fillon, oui. Et puis après, il y a comment est-ce qu'on fait avec les peines de prison, les gens qui sont condamnés, tout ça. Et donc là, il nous promet pendant la dernière campagne présidentielle, le 15 février 2017, il nous promettait ceci. Je mettrai fin à l'inexécution des peines. Près de 100 000 peines par an ne sont pas exécutées ou sont en attente d'exécution.
Et voilà, alors, c'est une bonne idée.
Et ben oui, et alors c'est pas, on en a encore une. Toujours pareil sur les gens qui sont condamnés. Je supprimerai la quasi-automaticité des remises et aménagements de peines de prison. Bon ben voilà, finalement il a rien supprimé du tout puisqu'il n'a pas été président, mais maintenant c'est donc un petit peu lui qui risque de se retrouver en situation d'avoir envie que sa peine soit aménagée. Le seul commentaire du site Nantes Révoltée, c'est sans la presse indépendante, alors en l'occurrence c'était le Canard Enchaîné qui en pleine campagne présidentielle avait mis au jour les histoires d'emplois fictifs de Pénélope Fillon, celui qui est appelé par Nantes Révoltée cet escroc d'extrême droite serait sans doute au pouvoir alors qu'il est.
Canu Info.
Alors on va parler maintenant à Hong Kong de la loi anti-subversion imposée par la Chine qui est entrée en vigueur hier soir. Résultat aujourd'hui, 180 personnes ont été arrêtées pour violation de cette nouvelle législation, pour rassemblement illégal, refus d'obtempérer et possession d'armes. Alors autant dire, pour donner un exemple, que la première des personnes arrêtées brandissait un drapeau pour l'indépendance de Hong Kong. Voilà, donc c'est certainement considéré comme une arme. Le 1er juillet est habituellement un jour de manif à Hong Kong pour célébrer la rétrocession à la Chine. Cette année, elle a été interdite pour la première fois, au prétexte sanitaire évidemment, et celles et ceux qui sont sortis aujourd'hui dans la rue ont été accueillis au canon à eau, chargés d'une solution au poivre irritant. En 2003, c'est cette même manifestation du 1er juillet et sa mobilisation immense d'un demi-million de personnes qui avait permis que justement ne passe pas une loi similaire sur la sécurité nationale. On peut rappeler peut-être que les Hongkongais se mobilisent depuis des années pour un peu plus de démocratie, pour un véritable suffrage universel et pour l'autodétermination. dans une enclave semi-autonome où Pékin se charge des affaires diplomatiques et militaires depuis 1997 maintenant. Alors théoriquement, c'était jusqu'en 2047 que Hong Kong devait pourtant gérer ses propres affaires, mais de nombreuses restrictions détaillées de cette nouvelle loi précipitent la continentalisation de l'ancienne colonie britannique. La population, elle, a appris les détails de cette loi uniquement lors de son entrée en application, hier soir donc, et elle permet, cette nouvelle loi, elle permet de réprimer quatre types de crimes contre la sécurité de l'État, les activités subversives, la sécession, le terrorisme et la collusion avec des forces étrangères. Autant dire qu'elle va limiter considérablement, voire annihiler les libertés civiles et politiques de n'importe quel citoyen en désaccord avec le système chinois ou avec le gouvernement, et qui plus est de l'opposition hongkongaise. De fait, cette loi couvre à peu près tout ce qui risque de déplaire à la Chine, y compris par exemple le fait d'être favorable à l'indépendance de Taïwan. Les peines encourues vont jusqu'à la prison à vie, un jugement sans jury dans les cas où des secrets d'État pourraient être révélés. Et pour faire respecter ces mesures, quantité de nouvelles agences vont être créées ou sont en train d'être créées. Une commission pour la protection de la sécurité nationale, des nouveaux services de la police, du ministère de la justice et un autre bureau qui va prendre ses quartiers à Hong Kong justement pour superviser et guider les autorités locales. Cette promulgation a été condamnée par 27 pays à l'ONU et fait l'objet de menaces de sanctions des États-Unis. En retour, Pékin dénonce une logique de bandit qui estime que la loi ne regarde pas les pays étrangers.
Canu Info. Du mercredi.
Et alors, vous vous souvenez peut-être de cette histoire, une des nombreuses histoires qu'on a eues ces dernières semaines où des flics se lâchent sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et alors, celle dont on va parler ce coup-ci, c'est l'histoire du groupe WhatsApp, celle où les flics étaient pas hyper nombreux, mais alors par contre, ils étaient quand même vraiment ultra trash radicaux dans leur racisme. C'est un collègue à eux, un flic noir, qui a capté ces messages sur le téléphone d'un autre flic et qui les a dénoncés. Les messages parlaient parfois directement de lui, de ce collègue-là qui était black, par exemple en le désignant comme un nègre qui ne fout rien. Les conversations visaient les collègues, mais aussi certains justiciables qui avaient été arrêtés, par exemple durant une audience en cour d'assises. Il y en a un qui dit à un moment « j'ai horreur des noirs et qui plus est des gays ». Alors les deux mélangés, quelle horreur. À un moment, il y en a un qui parle d'un putain de gros nègre de merde. Il y en a qui disent que la jeunesse française est négrifiée et bougnoulisée. C'était quand même ambiance un peu trash comme ça. La liste est longue, elle est aussi pénible. Je vais quand même pas du tout la faire en entier ni même l'allonger beaucoup. Je voulais simplement souligner avant d'arrêter sur le contenu des messages WhatsApp que les femmes en prennent aussi plein la gueule et les juifs sont pas du tout laissés de côté. Ils en prennent eux aussi plein la gueule. Eh ben, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que figurez-vous que les flics, donc trois de ces flics, sont passés hier en conseil de discipline, ce qui est déjà un petit peu quelque chose, et voilà que le conseil de discipline a décidé à l'unanimité qu'ils allaient être révoqués. Pas suspendus quelques jours, pas qu'on allait leur donner un blâme ou je ne sais quoi, ils sont révoqués, c'est-à-dire qu'ils sont virés de la police. En fait, ce conseil de discipline n'a pas vraiment le dernier mot sur cette affaire. Hein. C'est Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui prend la décision finale. Mais bon, il avait déjà dit, avant même le verdict du conseil de discipline, qu'il était pour la révocation. Voilà une histoire pas banale. Alors, sans vouloir sortir ma boule de cristal pour explorer une sorte de monde parallèle, j'ai bien l'impression que la même histoire, si elle s'était passée il y a quelques mois, ce serait pas terminée par une sanction aussi sévère. Mais entre-temps, on a eu l'affaire George Floyd qui a, entre autres, fait revenir sur le devant de la scène l'affaire Adama Traoré et plus globalement les histoires de violence et de racisme policier. Et voilà, avec tout ce qu'on sait qui s'est passé, Castaner qui a dit oui, c'est pas bien que les flics soient racistes, les flics qui, à ce moment-là, se sont mis à manifester pour demander le maintien de leurs acquis sociaux que sont le droit d'être quand même un peu raciste, puis parfois pas mal violent, puis bon, des fois de tuer quelqu'un quand même, pas trop souvent, mais des fois. Donc il y a eu ces manifs de flics. Castaner a cherché beaucoup à faire plaisir aux flics aussi, mais voilà, malgré tout, là, des propos quand même ultra violents, des propos écrits, c'est-à-dire pas du tout où les flics peuvent pas du tout dire non, on m'a mal compris ou je ne sais quoi. Là on arrive à une sanction et pas n'importe laquelle, virée de la police, comme quoi parfois la lutte paye au moins un petit peu.
Radio Canu 102.2.
plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu fleurir un grand projet d'aéroport. À peine commence une petite crise de l'air avec des compagnies aériennes en faillite et des touristes qui disent qu'il faudrait peut-être prendre un peu moins l'avion, que Vinci se lance dans un projet d'aéroport à côté de Lisbonne, dans l'estuaire du Tage, dans les plumes de dizaines de milliers d'oiseaux migrateurs. Destination à la mode, l'aéroport de Lisbonne est saturé. Il est déjà prévu de l'agrandir, mais au risque que ça ne suffise pas, un deuxième est planifié dans la ville voisine de Montijo et sera l'un des plus grands investissements au Portugal de la dernière décennie, selon Nuno Canta, le maire de la ville. Vinci est déjà bien installé au Portugal puisqu'il a racheté en 2010, période de crise de la dette, les concessions des 10 aéroports portugais qui font actuellement 40% du bénéfice de la branche aéroport de Vinci. Ce projet de nouvel aéroport est étudié depuis près de 40 ans. Il est prévu à l'origine pour remplacer celui de Lisbonne et décentraliser le trafic aérien. Depuis 2017, le projet change légèrement et ce nouvel aéroport vient s'ajouter à celui de Lisbonne, qui lui-même doit finalement s'agrandir, le tout pour permettre de doubler les capacités actuelles. Un accord financier est alors signé en 2019, avant même le feu vert de l'Agence portugaise de l'environnement. Vinci s'engage à hauteur de 1,15 milliard d'euros d'investissement et l'ouverture du nouvel aéroport est prévue en 2022. Évidemment, s'il ne respecte pas sa part du contrat, le gouvernement portugais serait tenu d'indemniser fortement Vinci, comme ça a été le cas par exemple dans un autre fameux projet d'aéroport en région nantaise, embourbé pendant des années par les gouvernements successifs, tenu par la crainte de cette indemnisation faramineuse. Les travaux d'agrandissement de l'actuel aéroport de Lisbonne ont déjà commencé, sans étude d'impact ni plan d'aménagement officiel, alors que le nouveau à Montijo donc s'installera à 6 km d'une réserve naturelle sur le site d'une base aérienne militaire. Une réserve naturelle qui est une zone humide, étape d'environ 300 000 oiseaux migrateurs entre l'Europe et l'Afrique et qui verra passer au-dessus de l'aire centrale de la réserve tous les avions qui partiront vers le nord. L'expérience d'une base militaire aérienne a montré auparavant que les collisions étaient inévitables et l'un des ornithologues du parc l'exprime clairement, il n'y a pas de pire endroit pour construire un aéroport. Il y a eu une consultation publique quand même et elle a fait état d'une majorité d'opinions défavorables malgré le sempiternel argument de l'emploi. Quant aux communes concernées, toutes n'ont pas donné leur accord, ce qui est pourtant requis par la loi portugaise, et les deux études environnementales se sont contredites avec une proposition de mesures compensatoires qui a été délivrée à l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts, qui a certainement fait pencher la balance et contribué à les faire changer d'avis. Alors, difficile de faire une ZAD sur un terrain militaire. Mais tout de même, en mai dernier, plusieurs recours en justice ont été portés par des ONG en dénonçant le manque de transparence du dossier et la Plataforma Civica, le collectif citoyen local, va demander l'annulation de tout le processus. Pour plus de détails, vous pourrez retrouver un article assez complet sur Bastamag. Et pour les dernières infos sur le sujet, le journal Economico portugais déplore que le projet n'ait pas avancé d'un pouce, toujours en attente des avis favorables des municipalités de Seixal et de Moita, alors que ce serait pile poil le bon moment post-pandémie pour assurer une saine relance économique. Pendant ce temps, hier soir, Pedro Nuno Santos, le ministre des Infrastructures, a annoncé que l'aéroport de Montijo allait aller de l'avant et qu'il ne serait certainement pas arrêté par l'impact de la pandémie dans le secteur de l'aviation.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Eh bien, pas de générique de Faut que ça sache cette semaine, hein, parce que j'ai pas eu le temps de le mettre. On va commencer par des news des frontières. Et on va parler, bien sûr, des bateaux qui secourent des personnes en Méditerranée, et cette fois-ci, c'est au tour de l'Ocean Vikings, le bateau de l'ONG SOS Méditerranée, qui se voit refuser l'autorisation d'accoster en Italie ou Malte, alors que le bateau a à son bord 180 personnes secourues. Mardi, ce bateau porte assistance à deux embarcations en détresse, la première à 55 km de l'île italienne Lampedusa. Cette zone se situe quand même dans les eaux internationales, mais placés sous la responsabilité maltaise. Vous voyez, c'est un peu le bordel quand même dans la région pour savoir à qui sont les eaux, sous quelle responsabilité, tout ça. Il et elle ont quitté la Libye et ont erré en mer durant 4 à 5 jours, tout de même. La seconde embarcation se situait dans la même zone, mais à 74 km, et eux ont quitté la Tunisie avec à leur bord 16 personnes, dont 4 enfants. Pour rappel, il n'avait pas fallu longtemps à l'Ocean Vikings, on en avait parlé la semaine dernière, pour reprendre les secours, puisque seulement 3 jours après la reprise de leur activité, ils effectuaient leur premier sauvetage. Et alors que leur premier sauvetage avait donné lieu à une rapide autorisation de débarquer en Italie, autorisation qui avait été refusée au même moment au Sea-Watch 3, on en avait parlé la semaine dernière, de manière complètement arbitraire. Cette fois-ci, c'est le bateau d'SOS Méditerranée qui se retrouve à errer en mer depuis bientôt une semaine, avec de fortes tensions à bord du fait de la promiscuité et de la crainte des personnes d'attraper le coronavirus en cette période. On les comprend. Plusieurs personnes menacent également de se jeter à l'eau pour rejoindre la côte à la nage. C'est ce qui s'était déjà passé plusieurs fois, on se souviens, à l'époque du Sea-Watch 3 qui a été resté, je me souviens plus, genre 15 jours ou 20 jours en mer. Bref, c'est des situations hyper compliquées à bord. Alors que du côté de Mare Jonio, le bateau de l'ONG italienne Mediterranea, l'équipage a secouru 43 personnes lundi au large de la Libye et a reçu mardi l'autorisation de débarquer au port d'Augusta en Sicile. Donc voilà, là c'est quand même complètement, on ne sait pas ce qui fait que le gouvernement italien juge bon ou pas d'autoriser les bateaux à débarquer. L'ONG Mediterranea s'est réjoui sur Twitter, mais a quand même rappelé qu'il y avait un bateau, celui de SOS Méditerranée, qui attendait toujours une autorisation. Bon, ce qui est quand même plutôt pas mal, c'est que au niveau de l'ambiance des ONG entre bateaux, c'est que ça se tire pas trop dans les pattes, genre oui, nous c'est parce que machin. Non, il y a plutôt une espèce de cohérence là-dessus. Depuis quelques semaines, c'est un peu donc la loterie pour savoir quel bateau aura le droit d'accoster. Bien évidemment, bah, personne ne connaît les critères. On va faire un tour du côté de la Grèce avec un nouveau plan pour sa frontière. Et cette fois-ci, bah, c'est le ministère hein, de la Défense qui l'assure. Et bien, alors son grand et super projet, c'est quoi ? Ça va être une barrière flottante installée en pleine mer Égée pour faire barrière aux migrants qui tentent de traverser les côtes turques. Alors, bon, voilà, il semblerait que les milices armées et cagoulées dont on a parlé plusieurs fois qui s'approchaient des bateaux et qui leur faisait couler leur moteur et qui leur disait bon maintenant vous vous démerdez pour rejoindre les côtes n'est pas suffi au gouvernement grec pour les dissuader. Mais voilà, ils ont donc décidé de mettre cette barrière prochainement. Elle est pas encore effective, mais c'est dans les cartons. Alors elle devrait s'étaler sur quand même 3 km et elle devrait faire plus d'un mètre de haut. Ouais, c'est quand même pas rien.
Tant 3 km.
Oui. Qu'est-ce qui t'étonne ? Tu trouves ça beaucoup, pas beaucoup ?
Non, 3 km, ça me semble pas beaucoup pour une frontière qui doit en faire quand même quelques centaines.
Surtout ouais. Sur l'eau, on pourrait surtout, peut-être la contourner.
Oui, c'est vrai, mais j'imagine qu'ils vont la mettre. En général, de ce qu'on capte sur les zones en Méditerranée, là, et j'imagine que ça va être la même chose du côté des Gés, c'est qu'il doit y avoir un peu des zones, un peu des espèces de couloirs connus, et que ça se trouve, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long, et ça va faire prendre peut-être plus de risques aux autres personnes sur les autres endroits. Quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas le chiffre, parce que ça se trouve, en fait, c'est peut-être un endroit où ça fait 8 km de large. Mmh. Bref. Toujours est-il que j'en étais où donc ça va être installé au large de l'île de Lesbos. Le gouvernement avait lancé un appel d'offres et une entreprise dont malheureusement on ne connaît pas le nom, en tout cas pas encore, y a répondu. On en fait un peu confiance aux copains grecs pour les retrouver pour un coût total de quand même 500 000 euros. C'est pas rien. Bon, en plus du risque de faire courir encore plus de dangers, hein, ce que je disais tout à l'heure, aux personnes souhaitant se rendre sur l'île, les ONG et associations grecques s'inquiètent de la difficulté de pouvoir porter secours à une personne ou un navire en détresse avec un tel dispositif. Une fois de plus, les gouvernements et les entreprises ne manquent pas de cynisme et d'inventivité pour empêcher quiconque de venir en Europe. Pas du tout le bon générique. C'est que j'ai essayé de mettre le CD pendant que je parlais, mais ça a moins bien marché. On parlait du racisme dans la police juste avant. Eh bien, il a malheureusement aussi sa place dans la rubrique Il faut que ça se sache. Et donc, en plein mouvement contre le racisme, Amnesty International pointe la surreprésentativité des migrants dans la discrimination et violence policière. dans les discriminations et violences policières, pardon. Si le racisme et les violences policières touchent particulièrement les personnes racisées, c'est encore plus vrai si ces mêmes personnes sont isolées, précaires, voire considérées comme illégales. Et bien sûr, c'est très souvent le cas des personnes en situation de migration. Dans un rapport publié le 23 juin, Amnesty International affirme que ces personnes sont extrêmement touchées par les violences et discriminations policières, situation qui s'est largement aggravée avec le confinement. Le rapport détaille, je cite, des violences, des contrôle d'identité discriminatoire, des mesures de mise en quarantaine forcée et des contraventions, des pratiques jugées discriminatoires mais qui sont légion dans les pays de l'Union européenne, dont la France, l'Espagne, la Belgique, la Grèce et l'Italie. C'est-à-dire que dans la situation de gestion de migration, être mis sur le même plan que la Grèce, je veux dire, c'est pas très beau, quoi. La police a visé de manière disproportionnée les minorités ethniques et les groupes marginalisés dans toute l'Europe. Pour ce qui est des quarantaines forcées et des campements de migrants, outre la Serbie, l'Allemagne et Chypre sont visés par le rapport pour la mise en place de mesures sélectives. Attention, j'utilise des guillemets. Pendant, je cite le rapport, hein, pendant l'état d'urgence en Serbie, par exemple, les autorités ont imposé un régime spécial visant de manière sélective les centres d'hébergement d'urgence des personnes réfugiées, migrantes et demandeuses d'asile administrées par le gouvernement. Elles leur ont appliqué des mesures strictes de quarantaine obligatoire 24 heures sur 24 et ont déployé l'armée pour surveiller le couvre-feu. En Grèce, les campements sont traités à part. Ils ont été confinés avant tout le monde et le sont toujours, alors que le déconfinement a commencé en Grèce depuis quelques temps. En temps de Covid, la France, et plus précisément Calais, n'a de son côté pas brillé par sa bienveillance envers les migrants. Entre le 18 mars et 22 avril, l'ONG Human Rights Watch a dénombré 13 cas d'usage de la force excessive ou arbitraire de la part des forces de l'ordre à l'encontre des migrants. Des policiers calaisiens ont notamment violenté deux migrants érythréens le 27 mars, fracturant le bras de l'un d'eux alors qu'il se rendait à une distribution de nourriture en début d'après-midi, rapporte l'ONG. Les deux victimes ont déposé plainte et rapporté les faits à la police des polices. On espère que cette plainte aura le même débouché que celle dont tu parlais juste avant.
Oui, on se fait. En même temps, l'IGPN n'est pas connu pour son extrême sévérité.
Non, c'est sûr. Ensuite, une équipe d'Amnesty International a également pu consulter et vérifier des dizaines de vidéos montrant des agents de police utiliser la force illégalement alors qu'elle n'en était souvent pas nécessaire. Par exemple, à Calais, il y a un des trucs, c'est de se rendre sur les lieux de distribution de nourriture. Vous voyez, les gens ont c'est à peu près un des seuls moyens de se fournir à bouffer et les flics n'hésitent pas à aller intervenir à ces endroits-là. Mais il n'y a pas que à Calais et en tout cas là c'est le cas sur l'île de Saint-Denis et dans l'une d'elles, Samir, un Égyptien de 27 ans, témoigne. Il est résident en France depuis 10 ans. Il est poursuivi par la police avant de se jeter dans la Seine le 26 avril 2020. Les policiers le désignent alors par un terme péjoratif de bico, péjoratif ou ultra raciste. Hein, c'est bon, Amnesty International, ils sont quand même bien, ils prennent beaucoup de pincettes. Et l'un d'eux ajoute, tu aurais dû lui accrocher un boulet au pied. Voilà. Alors, c'était un peu un état des lieux de ce qui s'est passé pendant le confinement et ce qui s'est passé avant et ce qui continuera de se passer après par la police française. Et on va s'écouter une petite musique avant de d'appeler une personne pour nous parler de la situation en Cisjordanie. Ah non, ça va pas marcher, c'est pas possible. Alors attends, de quoi la personne va nous parler? Tu peux nous présenter
pendant ce temps, j'allais plutôt dire que là, ça risque d'être le dernier Canu Info du mercredi avant deux mois. Et que bon, bah ma foi, on vous lâche sur un Canu Info bien typique de ce qu'on est capable de faire à des moments au niveau technique. Mais oui, c'est ça, que ça ne m'empêche pas de vous dire que eh ben écoutez, Donald Trump et son gendre Jared Kushner avaient peaufiné une sorte de plan de paix entre les Palestiniens et les Israéliens, un truc miraculeux, le deal du siècle, je crois qu'il avait appelé ça. Et ça avait l'air hyper, hyper bien pour tout le monde, c'était évident que ça allait satisfaire tout le monde. Bizarrement, ça n'a pas fait tant que ça plaisir aux Palestiniens, puisqu'il s'agit entre autres de l'annexion par Israël de 30% de la Cisjordanie, qui est donc la plus grosse partie de la Palestine. Alors, t'as trouvé ton morceau de musique?
Alors, on va se mettre un petit coup de musique, le temps d'appeler la personne, parce que c'est bien. Appeler, hein, vu le foirage technique de ce qu'il y a eu à fond,
ça va nous prendre 5 minutes voilà. Qui seront bien.
Allez, et ben, on se retrouve tout de suite après cette musique de Prof de Skids.
Et voilà, et on va pouvoir parler de ce fameux, finalement, il s'agit d'un, au départ, arrête-moi si je dis des bêtises, mais il s'agit du fameux plan de paix de Donald Trump et de son fameux neveu Jared Kushner.
Oui, c'est ça. Du coup, c'est un soi-disant plan de paix, mais qui est en fait plutôt quand même un processus de guerre, parce que c'est un peu la continuation du processus colonial, c'est ce que veut dire annexion, en fait, c'est des territoires qui... pour la communauté internationale depuis 48 ou depuis 67 seraient plutôt palestiniens et qui vont être annexés par Israël.
Et alors, dans ce qui est pour l'instant l'autorité palestinienne, il y a, arrête-moi toujours si je dis des bêtises, mais il y a deux parties, il y a la Cisjordanie et il y a la bande de Gaza.
Oui, la Cisjordanie et la bande de Gaza, théoriquement, elles sont sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué parce que il y a différentes zones. Il y a des zones A, B, C. Et tout ce qui est zone C est sous contrôle complet d'Israël. Ce qui est le cas de la vallée du Jourdain, qui va être probablement la partie qui va être annexée au 1er juillet.
Il y a ça et il y a aussi les colonies israéliennes en Cisjordanie.
Les colonies israéliennes en Cisjordanie, elles sont complètement illégales.
Mais
au sein de la communauté internationale.
Elles font aussi partie de ce qui devrait être annexé.
Et ça, c'est pas clair, en fait, parce qu'ils n'ont pas rendu public jusqu'à maintenant le plan d'annexion.
C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une annexion, mais qu'on ne sait pas précisément...
Ce dont les gens parlent, c'est plutôt l'annexion de la vallée du Jourdain, qui était déjà complètement sous contrôle israélien et qui est ce qui fait la frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie.
Alors, cette annexion, elle devait commencer aujourd'hui, c'est ça ?
Ah oui, on est le 1er juillet. Et ça, j'ai pas suivi aujourd'hui ce qui s'est passé.
Mais si c'est déjà complètement sous le contrôle israélien, ça veut dire que ça risque de pas changer grand-chose ?
Ben, disons que d'un côté, oui, ça risque de pas changer grand-chose, mais en fait, ça montre quand même que ce qui avait été attaqué avec le processus d'Oslo en 94, ça, c'est vraiment terminé. C'est-à-dire l'idée qu'il aurait pu y avoir sur ce territoire-là, deux États. L'État israélien d'un côté et l'État palestinien de l'autre côté. Alors, et déjà depuis, 15 ou 20 ans, c'est un peu clair que ça ne va pas être possible. Parce qu'à l'époque des accords d'Oslo et de l'Intifada, l'idée c'était les Palestiniens, ils voulaient un territoire si Jérusalem était la capitale, si y avait une continuité territoriale entre la Cisjordanie et Gaza, et si les réfugiés pouvaient rentrer. Et du coup, ça n'a jamais été possible. Et là, si l'annexion elle se fait comme c'est prévu, on est sûr que ce sera plus jamais possible. Ça va devenir un territoire.
Alors, c'est pas ce que nous annonce Donald Trump, qui lui pense que c'est hyper bien et que enfin les Palestiniens vont pouvoir avoir un État. Mais dans son esprit, un État, c'est quand même quelques tâches isolées les unes des autres.
J'avoue que je n'ai pas trop suivi ce qu'il pense Donald Trump, mais c'est sûr que là où on en est des revendications des Palestiniens, ils demandent la fin de la colonisation. Du coup, c'est sûr que le fait que l'annexion elle continue, ben, c'est pas la fin de la colonisation. Ils demandent Jérusalem comme capitale, et ça, pour l'instant, les États-Unis, ils ont reconnu que Jérusalem était la capitale d'Israël, et donc ça marche pas. Et le retour des réfugiés, ça, c'est même pas une question actuelle. Et surtout, ce que demandent les Palestiniens depuis 2005 et le lancement du mouvement BDS par Omar Barghouti et d'autres, la société civile palestinienne, ils demandent les mêmes droits sur un même sol. Donc c'est ça, la dénonciation d'un apartheid, en fait.
C'est-à-dire
le fait que sur un même sol, les gens vivent avec des droits très différents, comme c'était le cas en Afrique du Sud, entre les Blancs et les Noirs.
Parce que, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi les différences qu'il y a actuellement sur ce territoire ?
Les différences de droits ?
Oui.
Eh bien, c'est une société... Enfin, je ne sais pas si je vais retrouver tous les statuts comme ça, parce qu'il y a des statuts très différents. Mais en gros... Il y a des personnes qui, sur le territoire de la Palestine historique, il y a des personnes qui ont la nationalité israélienne et il y a des personnes qui ont la nationalité palestinienne. Et donc il peut y avoir des Palestiniens qui ont la nationalité israélienne mais ils vont quand même pas avoir exactement les mêmes droits que les Israéliens parce que par exemple ils font pas leur service militaire, et puisqu'ils font pas le service militaire, ils ont pas la fonction publique qui leur est ouverte, des choses comme ça. Et après au sein des Palestiniens, il y a les Palestiniens de Gaza, il y a les Palestiniens de Cisjordanie, qui peuvent pas vraiment se déplacer d'un endroit à l'autre. Là il y a des conditions différentes pour les contrôles des checkpoints et pour qui peut se déplacer où. Et il y a les Palestiniens de Jérusalem qui sont encore dans un statut différent. Donc il y a tout un tas, il y a toute une stratification de la population avec surtout des droits de mouvement qui sont différents, mais ça peut aller aussi sur la construction, sur l'exploitation agricole, ça va se jouer à plein de niveaux en fait les droits.
Sur la manière dont on est organisé la représentation politique, c'est différent aussi. C'est le droit de vote quoi.
Ouais, la représentation politique elle est différente et ça je connais pas très bien. En fait, je sais, par exemple, les Palestiniens de Jérusalem, ils peuvent voter au municipal de Jérusalem, comme les Israéliens, j'imagine. Et il y a une représentation des Palestiniens de Jérusalem, au moins municipal. Mais ça, je pourrais pas dire, en fait. L'autorité palestinienne, en fait, elle joue comme État, mais il n'y a jamais eu d'État palestinien. Du coup, c'est comme des gouvernants, mais qui n'ont pas de... La question, c'est même pas est-ce qu'ils sont représentatifs ou pas, mais c'est juste qu'ils n'ont pas de pouvoir, en fait. Ils n'ont pas de pouvoir.
C'est que, en fait, du coup, sur tous ces endroits-là, on aurait les citoyens israéliens pleins et entiers qui sont donc juifs, globalement. Après, on a les citoyens... arabes israéliens qui ont la nationalité mais qui quand même ont un statut différent dans la société. Après on a ceux qui sont arabes mais pas israéliens, mais qui peut-être sont quand même en Israël mais qui du coup sont vus comme étrangers, et c'est ça en fait, et c'est qu'à chaque fois ça fait des statuts différents qui donnent des droits différents et qui à chaque fois sont là uniquement sur des critères de qui tu es au moment où tu nais.
Ouais c'est ça, Là, c'est une chose qui a changé il y a 2 ans, parce que jusqu'à maintenant, Israël s'était pas proclamé État juif. C'est une nouveauté, en fait, de s'être proclamé État juif. Et là-dedans, il y a aussi un intérêt, comment dire, il y a un discours qui circule en Israël, que les Juifs, ils n'ont qu'un État, et les Arabes, ils en ont plein. Du coup, il y a aussi une importance à dire que les Palestiniens, ils sont pas juste Arabes, mais ils sont aussi Palestiniens. Et... Oui, c'est ça. L'idée vraiment, c'est comme à partir des accords d'Oslo au début des années 90 et jusqu'à maintenant avec le mouvement BDS, Omar Barghouti il dit que la lutte, elle s'est transformée d'une lutte à l'algérienne à une lutte à la sud-africaine. Ça veut dire qu'au début, il y avait l'idée de reprendre un morceau de territoire et retrouver une souveraineté sur un territoire, un peu comme l'Algérie l'a fait par rapport à la colonisation française. Et l'idée maintenant, c'est plutôt une lutte comme en Afrique du Sud, c'est-à-dire de dénoncer le fait que la Palestine s'est devenue comme des Bantoustans. Et du coup, sur un même territoire, il faudrait que tout le monde ait les mêmes droits.
Et ça veut dire qu'une partie des Palestiniens pensent ça, et internationalement, les gens du soutien qui se reconnaissent par exemple dans BDS, eux et elles, pourraient accepter, voire même pas accepter, mais promouvoir une sortie où à la fin, il y aurait effectivement un seul pays qui pourrait s'appeler Israël, mais à l'intérieur duquel tous les citoyens et les citoyennes auraient les mêmes droits.
La question elle est pas de savoir pour l'instant si ça s'appellerait la Palestine historique ou Israël ou quoi, mais l'idée ce serait que sur un même territoire toutes les personnes qui vivent là, quelle que soit leur religion, leurs origines culturelles, elles aient les mêmes droits et qu'elles soient pas limitées dans leurs déplacements, dans leur carrière, dans la possibilité de construire une maison, d'accéder à l'eau, de cultiver les terres et compagnie.
Et ça, est-ce que tu sais si à l'intérieur de la société israélienne, pardon, pas du tout israélienne, mais palestinienne, si les gens peuvent massivement soutenir quelque chose comme ça, ou s'il y en a beaucoup qui tiennent absolument à avoir un territoire et une souveraineté sur un territoire en tant que palestinien?
Ça, franchement, je ne sais pas, mais je crois, pour réfléchir à cette question, il y a le film qui s'appelle « État commun » de Eyal Sivan, qui est vraiment intéressant. Et « État commun », au-delà du film, c'est aussi un site internet, et c'est justement toute une discussion comme ça, d'Israéliens et de Palestiniens, sur qu'est-ce que voudrait dire un État commun. Et je ne sais pas, ça a peut-être 5 ans, ce film, et c'est assez intéressant. Parce que moi, je ne pourrais pas dire... Que j'imagine qu'il y a des contradictions à l'intérieur des gens qui sont dans le BDS, mais ils sont, même s'il y a des contradictions, les gens ils sont d'accord sur l'affaire de la fin de la colonisation, du retour des réfugiés et du même droit, des mêmes droits sur un même sol. Et le mouvement BDS, après, en dehors de la Palestine, en fait c'est les Palestiniens qui donnent comme des axes sur lesquels ils ont envie de travailler à un moment donné. Et après, BDS est organisé par continent. Et ça redescend, enfin chaque groupe local est autonome, mais a quand même des orientations qui sont données par les Palestiniens. Et l'idée aussi, c'est que les accords d'Oslo, ça avait été impulsé par les pays européens et américains d'Amérique du Nord, qui cherchaient à dire, ok, il faudrait faire deux États. Alors que le BDS, c'est un mouvement qui vient de la Palestine, donc pas de l'extérieur du problème en fait.
Et est-ce que tu as une idée si dans la société israélienne, comment est-ce que cette idée d'un seul État mais avec des droits réellement égaux pour tout le monde, comment est-ce que cette idée pourrait prendre, comment elle est reçue, quoi?
Non, ça aussi j'ai pas vraiment une idée de comment est l'ensemble de la société israélienne, en fait je sais pas, si ce n'est que dans les dernières années, les gouvernements qui sont élus, les gens qui sont représentants, etc., ils sont quand même situés sur l'échiquier politique plutôt droite, extrême droite, et du coup, ils sont favorables au processus de colonisation. Et Israël, dans son ensemble, la population, qu'elle soit de gauche ou de droite, elle est sioniste. Et du coup, le sionisme, c'est l'idée d'avoir un État pour un peuple juif. Donc ça, je crois que c'est la pensée dominante en Israël. Mais je sais pas, les résistances, les mouvements résistants, ils sont qui sont pour l'égalité des droits pour les Palestiniens, pour un État commun, etc. C'est des mouvements qui sont très minoritaires dans la société.
Et enfin, alors du coup là on est sur l'idée d'une annexion, c'est-à-dire qu'il y a une partie du territoire qui jusqu'à maintenant était sous autorité palestinienne qui va pas, enfin théoriquement, même si dans la pratique on a bien compris que c'était pas le cas, mais qui va passer cette fois-ci franchement et certainement sous l'autorité israélienne. Sur ce territoire-là, bien sûr, comme c'est le cas en Israël tout de suite, les Palestiniens n'auront pas du tout les mêmes droits que les Juifs. Et donc tout ça, pour l'instant, il y a quand même l'idée de s'opposer à ça. Il y a des manifs, entre autres. Tu sais, en fait, je n'ai pas regardé ce qu'il va y avoir comme manif là-dessus dans le week-end qui vient, à Lyon, à Saint-Étienne.
Souvent en Cisjordanie ou à Gaza, les manifs elles sont le vendredi. Du coup, il faut voir s'il va y avoir des grosses manifs ce vendredi. Il y en a eu vendredi dernier en Cisjordanie en tout cas. Et la vallée du Jourdain, l'enjeu il est pas juste de qui a l'autorité dessus, c'est que c'est aussi une grande plaine fertile. Et du coup, c'est le territoire qui reste en Cisjordanie et qui est cultivable et qui produit.
Ah oui, c'est ça, c'est que ce qui resterait à la fin, qui ne serait pas Israël, c'est vraiment juste du désert, quoi.
Ouais, c'est ça. Avec pas de continuité territoriale, parce que les colonies, elles sont aussi à des emplacements qui empêchent de circuler, en fait.
Ouais.
Pour les Palestiniens, je veux dire.
Ouais, bien sûr. Bon, alors, en tout cas, il y a une manif samedi après-midi à Lyon, mais je suis pas trop sûr du lieu et de l'heure, et puis là,
Moi, j'ai pas vu l'info.
Ouais, c'est ça. Alors, elle est en préparation, elle est peut-être pas encore complètement annoncée et officielle. Guettez les médias d'information alternatifs dans les temps qui viennent, peut-être oui. Rebellion bientôt, le Canu Info ce vendredi, certainement, ils l'annonceront. Et toi, est-ce que tu peux nous dire s'il y a de la manif du côté de Saint-Étienne?
À Saint-Étienne, il y a eu une manif la semaine dernière, donc je crois pas qu'il va y en avoir une nouvelle cette semaine.
Okay.
Mais de manière générale, si on s'intéresse à ces questions-là, c'est bien pour Lyon, par exemple, de se rapprocher du collectif 69 de soutien au peuple palestinien, et dans lequel il y a des associations avec un peu des orientations différentes, etc., mais bon, qui permettent de donner plus de renseignements. Et après, C'est bien aussi de regarder ce qui se passe sur le site internet de BDS, comme ça il y a toutes les manifs qui vont être annoncées au fur et à mesure. Et,
ouais.
Et à Saint-Étienne, il y a le mouvement BDS, le boycott des investissements sanctions, et aussi à Grenoble. Du coup, bon, je ne sais pas où habitent les gens qui écoutent, mais il y a souvent un collectif pour la Palestine, pas très loin de chez soi.
D'accord. Eh bien, écoute, merci pour ces éclairages. Dans tous les cas, t'en savais bien plus que nous, je crois.
Et du coup, on a l'heure, en tout cas pour Lyon, de la manif. Il y a une manif samedi 4 juillet 2020 à 15h et c'est à Lyon-Bellecour. Voilà. Pour refuser l'annexion des territoires palestiniens.
Ben, merci beaucoup à vous.
Merci. Au revoir.
Et ben il est 19h56, ce canuage faux touche presque à sa fin. Désolé pour toutes les erreurs techniques, hein. On peut dire un peu, hein, parce qu'on pourrait le dédicacer quand même, on a oublié à notre ancien maire Gérard Collomb. Et, en tout cas, ce canuage faux était un peu à l'image de sa sortie politique, c'est-à-dire un peu merdique, comme qui dirait. Donc voilà, c'était un peu pour lui faire une petite dédicace, hein, qu'on a fait tous ces foirages.
Oui, il nous a tenu compagnie toutes ces années depuis lesquelles on a commencé le Canu Info. Selon qui dans ce studio depuis plus ou moins longtemps, mais en tout cas même pour les gens qui sont depuis plus longtemps à Radio Canu, Gérard Collomb était plus ancien que nous.
Et il est encore vivant, par exemple. Si les gens se posent la question, il n'est pas mort du coronavirus et tout. Hein, et oui. Il tient bon.
C'est ça.
Il
est encore vivant.
Probablement du grain à moudre avec les verres. Hein, y a pas de problème.
Il y a des chances qu'on ait aussi des choses à raconter sur ces gens-là. Mais pour l'instant, c'est pas encore hyper hyper précis. On va les attendre au tournant et puis dès la rentrée, on devrait pouvoir.
Ils ont une petite visite à leur pot de victoire là au Ninkasi, où il y a des gens qui sont arrivés avec des banderoles pour leur rappeler que pas d'expulsion, ça pouvait être un mot d'ordre aussi. Voilà, on verra ce qu'il en est. Et en tout cas, aujourd'hui, il y avait une manif qui se tenait devant, par rapport à ça, justement, devant le Grand Lyon Habitat, qui a regroupé plus d'une centaine de personnes. Voilà.
Ah, toi, t'as déjà eu l'info, dis-moi.
Bah ouais, parce que moi, j'ai un ordinateur sous les yeux qui me permet de...
La manif devait donc commencer une heure avant le Canu Info, et donc, assez logiquement, les gens ne sont pas tous arrivés directement. Non, mais Canu Info, on est... Ok, voilà. Des fois on a des merdouilles techniques, mais alors on est quand même à la pointe
on
de
on est quand même connecté. Voilà, et ben en tout cas, c'était le dernier info, le Canu Info de cette saison. On vous retrouve en septembre. Pour la première fois, on s'est retrouvé à 3, enfin depuis un petit moment à 3 dans ce studio en direct. Voilà, et bien merci de nous avoir écoutés. Après nous, je pense qu'il n'y aura personne, hein, parce que l'idée noire doit être partie en vacances. Et bien, passer un bon mois de juillet, un bon mois d'août.
Ouais, et puis c'est ça, puis à bientôt.